1 Timothée, chapitre 6, versets 10 et 11. 1 Timothée, chapitre 6, versets 10 et 11. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. » Comme je l'ai dit, comme nous l'avons souligné, comme vous l'avez brillamment trouvé, Timothée est la seule personne à qui ce titre d'homme de Dieu ait été donné. On peut se demander pourquoi, on peut se poser cette question. Cela ne veut pas dire que des hommes comme Paul, Pierre, Jacques n'étaient pas des hommes de Dieu. Mais peut-être que Timothée avait particulièrement besoin de l'entendre de la part de la bouche de l'apôtre Paul. Simplement parce que Timothée, nous le savons, était un homme timide, qui manquait d'assurance, manquait de confiance en lui. Nous savons que Timothée était un homme qui était aux prises avec de grandes difficultés dans l'église d'Éphèse. Il avait imposé les mains, nommé les anciens de manière un petit peu précipitée. Il y avait des combats eh bien, dans l'église d'Éphèse bien particuliers, et Timothée se sentait en difficulté. Et cela a dû lui faire chaud au cœur quand eh bien, son maître à penser, quand son mentor lui a attribué ce titre d'homme de Dieu. Mon frère, ma sœur, titre d'homme de Dieu ne correspond pas toujours à ce que l'on peut voir. Ce n'est pas parce que tu manques d'assurance. Ce n'est pas parce que dans ton cœur il y a de la timidité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable d'élever la voix comme les autres. Ce n'est pas parce que parfois tu te sens eh bien, diminué ou parce que tu es aux prises avec des combats qui te tétanisent que pour autant tu n'as pas le droit à ce titre-là. Nous l'avons souligné à chaque fois dans nos introductions. Le titre d'homme de Dieu est valable pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que, au fond de ton cœur, tu te sens moins bon que les autres, moins fort que les autres. Ce n'est pas parce que tu es un nouveau converti. Ce n'est pas parce que, finalement, eh bien, il y a des choses que tu ne sais pas faire ou que parfois tu chutes, que tu n'as pas le droit à ce titre d'homme de Dieu. Sache une chose, c'est qu'aux yeux du Père, parce que tu manifestes certains traits de caractère, tu peux être toi aussi considéré comme un homme de Dieu. Sois rassuré. Sois rassuré. Il y a deux choses. Ici, l'apôtre Paul qualifie l'homme de Dieu au travers de deux verbes, fuir et rechercher. Et je pense que ces deux attitudes qu'il est nécessaire d'avoir à nous qui recherchons cette personnalité d'homme de Dieu depuis maintenant et bien quelques temps. Première attitude, fuir. Et c'est parfois étonnant de se dire qu'un chrétien puisse fuir. Dans l'enseignement que l'on a pu recevoir, dans l'enseignement que l'on a pu eh bien, parfois apporter ou lire, on a l'impression que le chrétien est un roc qui ne bouge pas. La tempête est là, les difficultés sont là, et puis par la foi, eh bien, il doit tout subir sans jamais bouger, sans jamais être en mouvement. L'apôtre Paul eh bien, dira à Timothée, pour toi, eh bien, fuis ces choses. Ces choses, c'est quoi ? C'est la cupidité, c'est l'argent, c'est l'amour de ces choses-là. Pourquoi fuir de telles choses ? Tout ça pour trois raisons essentiellement. Parce qu'elle nous empêche de nous concentrer sur notre salut. Alors que l'on pense à Mammon, on ne pense pas à celui qui nous a sauvés et qui a manifesté sa grâce. Pourquoi fuir la cupidité ? Parce qu'elle nous fait focaliser sur l'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai sur mon compte en banque ? Et qu'est-ce que je vais en faire ? Et qu'est-ce que j'aurai demain ? Alors que, finalement, notre espérance, elle est dans l'éternité. Là où il y a un trésor qui ne peut ni nous être volé, ni qui n'est pas périssable, qui ne peut pas rouiller. Que personne ne peut nous enlever. Pourquoi fuir ? Eh bien, cette cupidité, c'est parce qu'elle génère une dépendance. À partir du moment où on commence à mettre le doigt dans l'amour de l'argent, alors, eh bien, un cercle infernal s'instaure et finalement, une forme d'addiction naît. Fuis ces choses. Et l'apôtre Paul le dira, parce que certains, pour s'y être livrés, ont abandonné la foi. On ne peut pas servir de maître à la foi, dira Jésus. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être des intendants raisonnables de nos biens. Être sage, ce n'est pas être cupide. Être capable de tenir un budget, ce n'est pas être rapia. Mais c'est faire preuve eh bien, d'intelligence. Mais la Bible nous invite également à un principe de générosité qu'il nous faut manifester. Je crois que c'est quelque chose d'important. Alors oui, nous avons des choses à fuir. Fuir l'argent, fuir le péché, fuir l'amour de l'argent, la cupidité, fuir le péché. Joseph, dans la maison de Potiphar, ne va pas hésiter à le faire. Alors que Madame Potiphar lui fait des avances de plus en plus poussées, Eh bien, voici que Joseph préfère s'enfuir. Et un esclave qui s'enfuit, la seule chose qui l'attendait, et Joseph le savait très bien, c'était la prison. Et pourtant, il a préféré la prison plutôt qu'au péché. Il a préféré la prison plutôt que le plaisir. Et jeune homme, jeune fille, mon frère, ma sœur, il y a certains moments dans la vie de chaque chrétien où nous devrons avoir cette attitude de fuite. Il y a une chose dans laquelle nous ne devons jamais rester. Une chose avec laquelle nous ne devons jamais jouer. Une chose avec laquelle nous ne devons jamais flirter. C'est le péché. Parce que mettre le doigt dans l'engrenage du péché, mettre le doigt dans l'engrenage de la convoitise, mettre le doigt dans, finalement, flirter, se laisser une porte ouverte ou même entrouverte au péché, c'est à un moment ou à un autre, courir le risque d'y tomber. Jésus le dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien, coupe-le, retranche-le, parce qu'il te vaut mieux rentrer, il vaut mieux pour toi rentrer dans le royaume des cieux, eh bien, un borgne, plutôt que ton âme soit livrée au lieu de tourment. Il y a des choses avec lesquelles nous devons être capables de rompre, devant lesquelles nous devons fuir, devant lesquelles nous devons partir, devant lesquelles nous devons tout abandonner. Fuis. Fuis devant le péché. Fuis devant les passions dévorantes de la jeunesse. Deuxième point. Écrira Paul à ce même Timothée. Passion de la jeunesse, on pourrait disserter longtemps dessus. Mais on va s'arrêter sur le terme passion. Ce qui nous consume, ce qui nous brûle, ce qui nous fait vivre. Contrer un homme qui me disait, vous savez, pasteur, j'aime Dieu. J'aime Dieu et j'aimais venir à l'église passer un temps. Je lui dis, mais pourquoi vous ne le faites plus? Parce que j'ai le vélo. Tous les dimanches matins, je vais rouler avec mes amis. Et c'est une passion, c'est quelque chose. Et sa femme me disait, m'en parlez pas à table, il parle vélo, il mange sur son vélo. Enfin, il me salit la maison avec le vélo. Pour cet homme, le vélo, c'est quelque chose qui le consume à l'intérieur, qui brûle en lui. Et finalement, méfions-nous de ce qui peut brûler en nous. Même des choses qui sont totalement légitimes, même des choses qui sont tout à fait aimables, qui sont tout à fait justes, qui sont même bonnes parfois. Vie de famille peut être une passion qui nous brûle à tel point qu'on en oublie et qu'on en perd de vue eh bien, le culte que l'on doit rendre à notre Dieu. Le service pour Dieu lui-même peut être une passion qui nous consume tellement qu'on en oublie finalement même notre propre piété. Fuis. Fuis. Être capable de fuir, c'est la caractéristique des forts parfois, plutôt que de céder. Alors que la fuite passe pour un acte de lâcheté. Fuir devant le péché et fuir devant nos passions, cela est finalement un acte de courage, surtout dans un monde qui prône le contraire. Troisième chose, fuir pourquoi ? Fuir parce que notre intégrité est en danger. Intégrité physique ou intégrité spirituelle. Souvenons-nous de David, dans le palais de Saül, alors que la lance lui frôle les oreilles. Peut-être qu'un pasteur bien avisé aurait dit à Saül, « Ah, David, il faut que tu restes afin de sanctifier le palais de Saül. Si jamais tu t'enfuis, tu sais, tu vas perdre ton salut. David, il faut que tu restes parce que sinon tu vas perdre ta royauté. Comment est-ce que tu veux ? Comment est-ce que le peuple pourra te reconnaître ?» Mais si David était resté, Dieu aurait-il pu le protéger encore longtemps ? Parfois, que ce soit notre intégrité physique ou que ce soit notre intégrité spirituelle, il est nécessaire de fuir. Ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas... Mais c'est une nécessité de fuir certains lieux ou de fuir certaines situations. Souvenons-nous de l'ange qui parlera à Joseph et qui lui ordonnera de fuir en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'Hérode était en train d'en vouloir... Eh bien, Jésus. Dieu aurait pu envoyer des anges. Mais simplement, il a dit à Joseph, fuis. Fuis en Égypte. L'Égypte, pourtant, la symbolique biblique de l'Égypte est plutôt violente. Parce que c'est le lieu du péché. Abraham a fui en Égypte et ça ne lui a pas porté grand succès. C'est paradoxal. Parfois, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je ne dis pas que la fuite est toujours une solution. Je dirais, mais parfois, lorsque les motifs sont fondés, mieux vaut fuir que rester et mourir. Quatrièmement, fuir. L'homme quittera son père et sa mère. Je savais que ça allait vous plaire. S'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Allez, on ne va pas dire fuir parce qu'on ne fuit pas ses parents. Et on quitte. Et pourquoi faire ? L'homme de Dieu, il est capable de quitter pour construire. De quitter une relation. De quitter un confort. De quitter une sécurité. Pour construire quelque chose de nouveau. Une plante extraordinaire, une plante pour pousser, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, mais elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'être rempotée. Et parfois, il faut être mis dans un autre pot, plus grand, de manière à faire plus de racines et à grandir, à ce que la tige grandisse. Ça peut être le cas. Et parfois, il faut être rempoté dans une situation, d'une situation à une autre, d'un service à un autre, d'une ville à une autre, afin que, finalement, on puisse grandir et on puisse évoluer. On ne va pas s'attarder là-dessus, c'était la petite introduction. Fuir. C'est une connotation qui est parfois assez négative, mais qui, en réalité, eh bien, parfois nécessaire. Je le redis, ce n'est pas un coup de tête, mais parfois c'est une question, on doit être capable de le faire quand c'est une question de salut, quand c'est une question d'intégrité, ou alors quand c'est Dieu qui nous le demande, de manière claire et indiscutable. L'homme de Dieu, il doit être capable de le faire. Mais, deuxième point, l'homme de Dieu, eh bien, il recherche. Il recherche quoi ? Il recherche des sentiments. Tiens, il ne recherche pas la bénédiction. Il ne recherche pas les miracles. Il ne recherche pas les choses grandes. Non. Il recherche une croissance dans son cœur. Il recherche des sentiments nouveaux. Il recherche des sentiments divins. J'aime beaucoup ce passage de Paul aux Philippiens lorsqu'il a dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». J'aime bien le mettre au présent. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et quelques sentiments, je vais les prendre dans le désordre. Je vais les prendre parce que je n'ai plus trop le temps, donc je vais les prendre de ceux qui me paraissent le plus intéressants. Qu'il recherche premièrement la douceur, une caractéristique que nous maîtrisons tous, que nous avons tous, surtout ma femme. Le mot qui est utilisé ici est lié à gentillesse humble. C'est comme ça qu'il est traduit en grec. Et finalement, quelqu'un a traduit que la douceur, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est l'art d'obtenir sans casser le résultat souhaité. J'aime beaucoup cette tournure de phrase. La douceur, c'est l'art d'obtenir sans casser. On est tous capables d'obtenir des choses. Mais sommes-nous capables de les obtenir sans briser et sans détruire ? Ça, c'est une autre question. Sommes-nous capables de le manifester au travers de nos mots, au travers de nos réactions, de capacités ? Sommes-nous capables d'exprimer la vérité sans casser ? J'aime beaucoup quand le Saint-Esprit travaille en nous. Parce qu'il exprime la vérité, il exprime notre conviction de péché, de justice, de jugement. Il nous dit des choses terriblement désagréables. Il nous dit que notre vie sans Jésus ne valait pas la peine d'être vécue. Il nous dit qu'on a été à côté de la plaque pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais se sent-on agressé pour autant ? A-t-on envie de fuir ? A-t-on... Non ! On tombe sur nos genoux, on pleure, on constate la chose. Et ensuite, cette parole, elle nous élève. Tout simplement parce que c'est une parole qui est faite avec douceur. Parce que le Saint-Esprit sait parler à notre cœur. Il nous brise sans nous détruire. Il nous brise sans nous détruire. Parfois, je dois le confesser avec mes propres mots, j'y suis allé tellement fort qu'on était incapable de retrouver les morceaux pour les recoller. Le Saint-Esprit, il brise nos vies. Mais il recolle les choses. Il brise nos cœurs, mais il nous redonne un cœur nouveau. Cette douceur qui, dans nos mots, doit exister. Alors, j'ai creusé un petit peu et je me suis dit, ok, être doux, c'est bien, mais c'est quoi les fondements ? C'est quoi les fondements de la douceur ? Premièrement, pour être doux, Il faut être en paix dans notre cœur. À partir du moment où dans mon cœur c'est une tempête, où je ne suis pas en paix avec moi-même, où je ne suis pas en paix avec Dieu, automatiquement mes mots seront l'émanation de cette tempête. Et n'oublions jamais que la paix est un des vecteurs, est une des composantes du fruit de l'esprit. Si je ne suis pas en paix, je ne peux pas manifester de douceur. C'est quelque chose qui est inconcevable. Donc, si je veux être capable de ne pas casser par mes paroles, par mes réactions autour de moi, ce que je dois chercher avant toute chose, c'est la paix. Dans le secret de ma chambre à coucher, dans l'intercession, eh bien, c'est la paix. Lorsque j'ai quelque chose à dire à mon frère ou à ma sœur, eh bien, je dois le dire en étant en paix. Je dois le dire en étant en paix dans mon cœur, en paix dans mon âme. Sinon, il faut que je me taise. Parce que mes mots seront éloignés de toute douceur. Deuxième composante, c'est l'humilité. L'humilité, on le sait, l'apôtre Paul le définit de la manière suivante, c'est considérer l'autre comme nous étant supérieurs. Et étant donné que l'autre fait la même chose avec nous, ça nous met sur un pied d'égalité, ce qui est tout à fait extraordinaire. La considération de l'autre, la considération de son histoire, la considération de son vécu, la considération de ses années de conversion, la considération de ses blessures passées, soignées ou pas. Ce qui nous pousse à éviter d'appuyer sur le mauvais bouton, là où ça fait mal. Troisième point, je vous passe rapidement, parce que vous comprenez, vous connaissez ces choses-là. On le trouve dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 7. C'est Paul qui le dit, il y a quelque chose qui m'a profondément intéressé, et on va y traîner un petit peu. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ce passage, il est remarquable. Paul qualifie la douceur qu'il a eue vis-à-vis des Thessaloniciens, la matérialise au travers de cet exemple de la nourrice, qui est un modèle de douceur. Vous qui êtes maman, avec vos enfants, vous étiez d'une douceur remarquable. Vous ne le faisiez pas tomber, vous ne les violentiez pas, vous ne jouiez pas au foot avec, vous veillez au contraire à ce que leur matelas soit bien doux, bien douillet, etc. Hein, Rominou, ça a été le cas. Oui, bon, c'est bien Valérie. Hein ? Donc, Valérie a manifesté de la douceur vis-à-vis de Romain. Finalement, les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis des inconvertis, vis-à-vis de nos familles inconverties, seront des nourrices. Considérons-les comme des enfants et manifestons cette même douceur. Et quand on creuse un petit peu dans le texte, prendre un tendre soin, en grec, ça signifie réchauffer par la chaleur de son propre corps. Tiens. Ce qui veut dire qu'être doux, ce n'est pas être mielleux. Ce qui veut dire qu'être doux, ce n'est pas être politique. Ce n'est pas être diplomate, mais ce qui veut dire qu'être doux, c'est exprimer ses sentiments. C'est prendre l'autre contre son propre cœur de manière à ce qu'il ressente ce que nous ressentons. Bref, quelqu'un de doux ne l'est pas uniquement dans ses mots, mais il prend l'autre pour le réchauffer. Paul dira aux Thessaloniciens, nous vous avons annoncé l'évangile, nous avons pris soin de vous, nous avons témoigné ce que nous avions, ce que nous étions. Et la douceur, c'est avant tout l'émanation de notre cœur. Ce qui signifie que lorsque je veux être doux, caractéristique d'un homme de Dieu, je reviens sur mon sujet, je ne suis pas un coffre-fort. Je ne suis pas un religieux caché derrière ses principes. Mais je suis tel Jésus qui est capable d'être ému lorsque cette femme prostituée viendra briser le vase d'albâtre sur ses pieds. Je suis capable de souffrir
comme Jésus a souffert devant Jérusalem, en disant combien de fois Jérusalem ai-je voulu rassembler tes petits. Il y a une émanation de mon cœur. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de logique. Je me suis demandé qu'est-ce qui était dur. Un mur. Un mur, c'est dur. Si vous marchez et que, une fois ça m'est arrivé, une porte vitrée. On était en congé avec des amis et puis là, je suis rentré dans la cuisine pour chercher quelque chose et puis entre-temps, quelqu'un a eu la bonne idée de fermer la porte vitrée et puis moi j'étais pressé, je suis rentré comme une balle dans la porte vitrée. Boum ! Elle a tremblé. J'ai bien cru que sous mon poids, elle allait... Et je l'ai senti. J'ai pris un mur. Un mur ? C'est tout sauf doux. Ça ne manifeste rien, un mur. On peut parler à un mur. On peut toucher un mur. Mais on ne ressent rien d'un mur. Et la question que je me suis posée pour moi-même, lorsque un homme, une femme vient me parler, est-ce qu'ils ressentent la compassion, la miséricorde, l'amour de Jésus ? Peut-être la colère même parfois. Mais finalement, l'émanation de ce que je suis, l'émanation de ce que je pense, l'émanation de mon être. Là, je suis un coussin. Ce qui ne veut pas dire qu'on est mou, mais ce qui veut dire qu'en face, il y a un interlocuteur. Il y a un cœur. Il n'y a pas des principes, mais il y a un cœur. Il n'y a pas des dogmes, mais il y a un cœur. Un cœur qui est d'accord, un cœur qui n'est pas d'accord, mais il y a un cœur qui ressent. Et la douceur, c'est ça. C'est être capable de ressentir avec l'autre. C'est être capable de montrer que l'on ressent des choses. Négatives ou positives, peu importe. Mais il y a un cœur à cœur. Vous me suivez ? Quelque chose qui réchauffe. Quelque chose d'humain. Et quelque chose de divin. Douceur, c'est l'expression de sentiments forts et intimes. C'est l'émanation de ce que l'on est. L'homme de Dieu, le chrétien qui se veut homme de Dieu, celui qui veut servir le Seigneur, il a vocation à manifester cette empathie, cette capacité à souffrir avec. Cette capacité à écouter, à entendre, tout en condamnant ce qui est condamnable, mais à prouver qu'il y a un cœur derrière la foi. D'accord ? Recherche la douceur, qui est fondée sur la paix, sur l'humilité et sur l'expression de notre cœur. Deuxième point, deuxième chose que nous devons rechercher, allez, c'est la piété. Ça va être plus classique. La piété. Comment changer sans avoir une piété ? Je vous le dis souvent, mais comment avoir des actes qui soient dignes de Jésus, qui soient différents de nous-mêmes, de ceux que nous produisons sans être à Jésus, sans avoir ce contact avec Jésus ? C'est toujours choquant de se dire que Paul doit dire à un pasteur, finalement, recherche la piété. C'est étonnant. Normalement, ça fait partie du job. Je ne sais pas, Philippe, mais en règle générale, un pasteur qui ne prie pas, vaut mieux qu'il aille planter des choux. Hein. Et là, Paul, il dit à Timothée, « Mon gars, ce serait bien, recherche la piété. C'est la caractéristique d'un homme de Dieu. » C'est quoi la piété ? Oh, c'est une grande... Alors ça pourrait faire l'objet de 4 ou 5 prédications. Je vais vous la résumer en une phrase que j'ai trouvée bien. La piété, c'est introduire le désir de Dieu dans tous ses actes. La piété, c'est introduire le désir de Dieu dans tous ses actes. Ce qui signifie que nos vies sont pour Dieu. Ma respiration, ce que je suis, ce que je donne, ce que je fais, c'est pour Dieu. Et la piété, c'est un muscle. Ni plus ni moins. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de sport,
Écoutez quand même, ça pourrait vous servir. L'apôtre Paul expliquera à Timothée, à ce même Timothée, y a-t-il un rapport de cause à effet, peut-être, j'en sais rien. Était-il un adepte du footing ou de la musculation, enfin bref, que sais-je. L'exercice physique est utile à peu de choses, il ne dit pas que c'est utile à rien, mais à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. On peut faire le parallèle. Et je pense qu'il est simple à faire. Ma piété, où est-ce qu'elle en est? Est-ce que je l'exerce? Dans n'importe quel sport, pour progresser, il faut faire des efforts. Et mon frère, ma sœur, j'ai une très mauvaise nouvelle. La piété ne vient pas de manière spontanée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu pries le Seigneur pour qu'il te donne la piété que la piété viendra. Non. Si le matin tu te lèves et que tu dis au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à prier. » Non. Mais la piété se muscle. De la même manière que le marathonien s'impose des abstinences, que le lutteur, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, eh bien, ne voulant pas battre l'air, tient son corps en bride, le traite durement. De la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, si nous voulons avoir une piété qui tienne la route, j'ai une mauvaise nouvelle, eh bien, il faut une discipline. De telle heure à telle heure, c'est pour mon Dieu, c'est pour personne d'autre. Mon copain, ma copine a beau m'appeler, je suis avec mon Dieu. Mon téléphone portable est coupé, sauf quand on est pasteur. Et quand on est texto. C'est pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu. Si je ne muscle pas ma piété, si je ne m'y entraîne pas, comment est-ce qu'elle peut exister? Elle va totalement s'atrophier. Si on n'utilise pas un muscle, le muscle perd toute sa force. Et lorsqu'on ne prie plus, on peut continuer à avoir l'air, mais on n'a plus la chanson. On a les apparences, mais on n'a plus le fond. Et là, le diable, il se régale. La piété, c'est une régularité. Deuxième axe. Ce n'est pas la quantité qui fait, mais c'est la régularité. Mieux vaut peut-être que tu pries moins, mais que tu pries plus régulièrement. Prier une fois par an, pendant une journée, ça ne suffit pas. Mieux vaut que tu pries une heure tous les jours qu'une fois par an pendant une journée. Sinon, on prend un repas pour toute l'année. Tous les jours, un temps avec Dieu. Tous les jours, un temps avec mon Seigneur. De la même manière que le marathonien sort tous les jours pour s'entraîner, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, que j'en ai envie ou que je n'en ai pas envie, je me tiens devant mon Dieu. Que les circonstances s'y prêtent ou qu'elles ne s'y prêtent pas, je me tiens devant mon Dieu. Que mon mari ait envie de le faire ou ma femme ait envie de le faire avec moi, je me tiens devant mon Dieu. C'est une règle qui est irrévocable si nous voulons développer le caractère d'homme de Dieu. Troisième point, il n'y en a que 8, c'est de stagner, d'accepter la stagnation. Tiens, c'est intéressant ça. Pour une fois. Pour ceux qui ont fait du sport, vous le savez qu'au début, on progresse très vite. Troisième point, stagnation. Au début, on... Ah d'accord, je suis rassuré, je te voyais parler. Donc, je me disais, tiens, dois-je... Troisième, au début, on progresse très vite. Et puis ensuite, il y a un palier. Et on progresse point par point. Mais beaucoup plus lentement. Pour la musique, c'est pareil. Pour toutes les activités, c'est pareil. Pour la foi, il en va exactement de même. Au début, on s'éclate. C'est génial quand on vient de se convertir, prier, mais... C'est fabuleux! Venir à l'église, c'est fabuleux! Et puis petit à petit, on se rend compte que... Tout le sentimental laisse la place à la foi. On ne fonctionne plus à ce que l'on ressent, mais on fonctionne à ce que l'on croit. Et là, la chanson change. Et il faut accepter de stagner. Mais si on s'arrête à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait ? On régresse. Et pour repartir, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Gravons le bien dans notre cœur. Nous ne nous tenons pas devant Dieu parce que nous sentons les choses, mais nous nous tenons devant Dieu parce que nous aimons être auprès de Dieu et parce que nous croyons qu'il nous entend, parce que nous croyons que c'est bénéfique à nos vies. Même si on ne sent pas de progrès significatif, il n'en reste pas moins que c'est une nécessité. Allez, pour trouver du plaisir, ce sera la conclusion de cette deuxième partie. Pour trouver du plaisir, il faut acquérir les bases. À l'époque où je faisais du kayak, ou je vais reprendre l'exemple du piano par exemple, faire des gammes au début, c'est pas drôle. Solfège, c'est pas drôle. Et puis au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout d'un coup, on s'éclate. On commence à trouver du plaisir parce qu'on arrive à faire des choses. On arrive à improviser, on arrive à mettre ça à notre sauce. Dans la vie chrétienne, dans la piété, dans ma relation avec Dieu, dans ma manière de vivre ma foi au quotidien, dans ma manière d'insérer Dieu dans mon quotidien, c'est exactement la même chose. Au début, je ne sais pas faire. Ou alors je fais mal. Résultat des courses, parfois, c'est un peu frustrant. Mais heureusement, Dieu vient à notre secours. Et au début, il nous exauce, même si c'est mal fait. Il n'y a aucun souci, parce qu'il sait que nous sommes des enfants. Mais ensuite, quand on sait faire, quand on a les bases, quand on a compris un petit peu comment Dieu fonctionnait, la logique de Dieu, et quand on a compris surtout que l'on ne comprenait pas souvent, parce que la logique de Dieu est souvent bien différente de la nôtre, eh bien qu'est-ce qui se passe ? On y prend du plaisir. J'aimerais bien faire un sondage un jour, mais un sondage sincère, pour savoir combien sur 150, 200 personnes qui fréquentent l'Église trouvent du plaisir à prier. Ce serait très intéressant, d'ailleurs, je pense qu'un jour je vais le faire. Trouve du plaisir, mais à bulletin secret, hein. Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça à main levée. Hein. Mais je serais curieux. Et mon frère, ma sœur, quelque part, si tu ne trouves pas de plaisir dans ta piété, c'est parce que les trois points que j'ai évoqués, tu ne les maîtrises pas. C'est que la notion d'effort, tu ne la connais pas, donc tu n'y es pas familiarisé. Et chaque fois que tu te remets, ça nécessite un effort parce que ta piété n'est pas musclée. Deuxièmement, ça veut dire que la notion de régularité n'est pas acquise et qu'à chaque fois, ça te demande un tel effort pour t'y remettre que tu as toute la pente à remonter. Et troisièmement, c'est peut-être parce que t'as pas accepté cette stagnation ou cette pensée du fait que c'est par la foi que l'on s'approche de Dieu et non pas par rapport à ce que l'on ressent. Que le Seigneur t'aide, recherche. Recherche la douceur, recherche la piété. Ce sont des valeurs dignes d'un homme de Dieu. C'est là ce qu'un homme de Dieu recherche, doit rechercher, entre autres les autres sentiments que l'on verra peut-être la prochaine fois. Mais que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. En conclusion, oui, parce que c'était. Ah bah oui, c'était la conclusion de la deuxième partie, attendez, pas me carotter non plus. Hein ? Fuir, rechercher. Deux verbes qu'il faut arriver à s'ancrer dans le cœur. Et rechercher, et je conclurai là-dessus, ça nécessite de la minutie. Ça nécessite de la méthode. Ça nécessite de la volonté. Les sentiments divins ne naissent pas en nous de manière spontanée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, ça se fait avec le temps. Que le Seigneur soit béni. Amen.